Merci Corinne Audouin, bonne journée. Le grand face-à-face de France Inter, c'est parti. Bonjour, bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur quelques-uns des temps forts de la semaine avec le duel et cette guerre en Ukraine avant le débat du samedi. Et l'on reviendra en France pour s'interroger sur un sujet important, l'agriculture. Quelle agriculture pour demain ? Le salon de l'agriculture ouvre ses portes et c'est l'occasion de réfléchir aux mutations profondes de ce secteur. Comment verdir, comment on dit l'agriculture, comment la rendre plus respectueuse de l'environnement et garantir la souveraineté alimentaire, comment inventer un nouveau modèle qui puisse produire de la richesse, qui puisse permettre aux agriculteurs de vivre dignement et qui s'engage dans la transition écologique. L'équation ainsi formulée semble impossible, en tout cas très compliquée. On essaiera malgré tout d'en parler, d'imaginer des solutions avec notre invitée. Elle connaît très bien le sujet, Sylvie Brunel, elle est géographe, économiste, ancienne présidente d'Action contre la faim, professeure à Sorbonne Université, et elle est l'autrice de « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ». Sylvie Brunel viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Et on va évidemment commencer avec la guerre en Ukraine.
Je crois qu'il faut prendre une décision qui s'impose depuis longtemps. Reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Nous exigeons de ceux qui ont pris et détiennent le pouvoir à Kiev une cessation immédiate des hostilités. Sinon, toute la responsabilité de la poursuite éventuelle de l'effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir en Ukraine.
C'était Vladimir Poutine, allocution télévisée à la télévision russe. Longue allocution, c'était lundi et tout y est, Gilles.
Oui, ce que l'on vient d'entendre à l'instant, c'est la décision. Ce qui est plus intéressant, ou peut-être même au moins aussi important, ce sont les justifications qui sont données dans ce long discours. On ne sait pas évidemment précisément ce que va faire Vladimir Poutine dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais avec ce discours, on comprend ce qu'il voudrait faire. Et ce qui est, le plus éclairant, c'est que, en réalité, le problème n'est pas pour Poutine l'OTAN et ses alliances, mais c'est l'Ukraine et son existence même. Et je crois que c'est ça qui est l'élément le plus important. On voit que son imaginaire s'inscrit dans une histoire en siècle, qui est celle de l'Empire russe, qui n'est pas évidemment celle de l'Union soviétique. Il est même évidemment critique contre ceux qui ont démantelé, contre Gorbatchev le premier. Mais dans ce discours, à plusieurs reprises, il émet des critiques contre les principaux responsables de l'Union soviétique, contre Lénine, créateur de l'Ukraine pour Poutine, contre Staline qui a élargi l'Ukraine après la guerre et sans doute aussi qui lui a donné un siège, on l'a oublié, un siège spécifique à l'ONU pour l'Ukraine après la Seconde Guerre mondiale, contre Khrouchtchev qui a donné la Crimée. Donc c'est vraiment, il s'inscrit dans cette histoire longue, un peu mythifiée, qui remonte au Moyen-Âge et jusqu'aux origines de la Ruthénie.
Natacha.
Oui, en effet, et je crois qu'il est nécessaire justement de se replonger dans cette histoire pour bien comprendre ce qui se joue. L'Ukraine a en effet une histoire complexe qui est liée à sa position géographique, qui est centrale et qui en fait remonte à la ligne de frontière entre l'Europe carolingienne et l'Europe byzantine. Et simplement le tort de Vladimir Poutine, ou plutôt sa mauvaise foi, et de nier le fait qu'il y ait une identité spécifique ukrainienne, ce qui est indéniable et ce qui s'est renforcé dans les dernières années. Et si l'on croit au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, rien ne doit empêcher l'Ukraine d'affirmer sa souveraineté. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi ne pas évacuer trop la part du discours de Vladimir Poutine concernant l'OTAN, parce que là aussi, cela fait partie de ce qui se joue. Alors on voit bien dans ce discours la paranoïa de Vladimir Poutine quand il dit « Maïdan n'a pas rapproché l'Ukraine de la démocratie et du progrès. Après le coup d'État, les nationalistes et les forces politiques qui le soutenaient ont paralysé la situation et plongé l'Ukraine dans la guerre civile. » En gros, On rejette toute responsabilité, ça c'est un classique, mais surtout, il explique que son action est aussi liée au fait que depuis 1989, et c'est une réalité, 11 pays de l'Est ont intégré l'OTAN. Et qu'il considère en fait que les troupes de l'OTAN sont d'ores et déjà présentes en Ukraine, dans une orientation anti-russe. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange entre ce que disait Gilles, c'est-à-dire la mythification de l'histoire, l'espèce de réécriture de cette histoire qui est du coup totalement simplifiée, et la politique, le rapport de force entre les États-Unis et la Russie depuis 1989, qui se joue et dans lequel on voit bien que les États-Unis ont poussé au maximum leur avantage. Il y a eu une conférence à Munich il y a quelques jours, les États-Unis ont à la fois hystérisé la situation et annoncé qu'ils n'interviendraient pas. Ce qui est, à mon avis, une erreur, plutôt une volonté de faire monter un petit peu les enchères. Mais de fait, la question de l'appartenance ou non de l'Ukraine à l'OTAN, elle se pose depuis longtemps. En 2008, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel s'étaient opposés à Obama, qui voulait l'entrée de la géographie et de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que Sarkozy et Merkel savaient que c'était potentiellement extrêmement dangereux.
Gilles,
je crois que dans cette lecture de l'histoire selon laquelle l'Ukraine n'existe pas, qui est quand même l'élément le plus fondamental, il y a à la fois une lecture partielle, voire une réécriture de l'histoire du siècle dernier. Oui, il nie l'identité de l'Ukraine, comme le dit Natacha, mais il occulte au moins deux événements majeurs. Lorsque l'Empire russe s'effondre, immédiatement après, c'est la première indépendance de l'Ukraine entre 1917 et 1921. Lorsque l'Empire soviétique s'écroule, immédiatement après, c'est une revendication d'indépendance, et il ne faut pas l'oublier, cette indépendance de l'Ukraine, elle se fait par référendum, avec une participation massive, plus de 80% de participation, et avec un oui à 90%. Donc dans cette nation...
C'était en 1992.
Dans cette nation divisée, qui était réellement divisée entre l'Est et l'Ouest, avec une partie plus occidentale et une partie plus russophile, malgré tout, y compris l'Est de l'Ukraine, vote massivement en faveur de l'indépendance. Et le paradoxe de cette histoire, c'est que en 1991, il y a un État, mais il y a une nation qui est divisée. Je me souviens, moi, être allé en Ukraine en 2004, après des élections présidentielles, où je n'avais jamais vu une carte électorale comme ça de ma vie. C'est-à-dire que selon l'endroit où on habitait, dis-moi où tu habites, je te dirai pour qui tu votes. Il y avait 90% des votants pour un candidat d'un côté, 90% des votants pour un autre candidat de l'autre côté. Eh bien, ce à quoi a abouti la pression et la guerre, c'est que là où il y avait une nation divisée, il y a aujourd'hui un nationalisme affirmé et une nation ukrainienne qui était en devenir et qui maintenant est là.
Natacha, Vladimir Poutine en vérité avait déjà envahi l'Ukraine, il avait déjà annexé la Crimée. C'était quelque chose qui était une politique du fait accompli, une action d'annexion qui ne se souciait ni du respect des frontières, ni de la légalité internationale.
Non mais on est bien d'accord, et comme le dit Gilles, dans la mesure où Vladimir Poutine nie l'existence même de l'Ukraine, en effet, la logique est qu'il considère qu'il peut ne pas respecter les frontières. Encore faut-il distinguer légèrement la Crimée de ce qui se passe aujourd'hui. La Crimée, en effet, est un transfert récent de la Russie vers l'Ukraine. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine en elle-même. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est véritablement une invasion. Et une invasion qui ne va pas se contenter des républiques indépendantes. Donc la question est de savoir, d'abord, si Vladimir Poutine avait cette intention-là depuis le début. Il semble en effet que oui, c'est-à-dire que dans son jeu d'échecs, il avait déjà anticipé les différents éléments. Oui. Mais pourquoi en arrive-t-il là? C'est cela aussi qu'il faut comprendre. C'est que en face, il y a le nationalisme ukrainien, parfaitement légitime l'envie d'être un État-nation indépendant. Et en effet, la population ukrainienne a démontré son souhait d'indépendance. Et il y a ensuite la question des alliances. Or, la seule solution, c'était la finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire un statut de neutralité qui garantissait qu'elle ne basculerait ni dans un camp ni dans un autre, dans la mesure où, encore une fois, l'enjeu pour Vladimir Poutine, c'est d'empêcher qu'il y ait à ses frontières ce qu'il considère comme un ennemi, à savoir l'OTAN. Or, on voit bien que la politique américaine, depuis 1989, est l'intégration de l'ensemble des ex-républiques soviétiques dans le giron de l'OTAN. Je le disais, ça a été le cas pour la Géorgie, c'est le cas pour l'Ukraine. Obama l'a voulu, oui. Biden l'a voulu, c'est-à-dire que c'est une politique des démocrates américains dont on sait qu'ils considèrent la Russie comme l'ennemi héréditaire. Et l'Ukraine est clairement pour eux la ligne de front. Ça a été affirmé par les différents dirigeants de la CIA ces dernières années, notamment après la révolution de Maïdan. Il y a donc, de la part des États-Unis,
oui,
un jeu dangereux qui répond au jeu dangereux de Vladimir Poutine, qui, lui, n'a jamais admis l'indépendance de l'Ukraine. Donc on a deux impérialismes qui se confrontent sur ce territoire, qui aspirent à son indépendance.
Un complément, Gilles.
Oui, juste un mot. Je crois que Natacha a raison de dire qu'il faut distinguer la Crimée du reste de l'Ukraine, de la même manière que les États-Unis ont commis des erreurs et sans doute même des fautes, même s'ils n'ont pas poussé leur avantage jusqu'au bout, puisque jusqu'à présent, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Malgré tout, ce qui était très frappant dans ce discours, au-delà de la réécriture de l'histoire longue, au-delà d'une vision très partielle de l'histoire du XXe siècle, ce sont les accusations délirantes sur l'histoire la plus récente. Il faut quand même regarder ce qu'étaient les mots de Vladimir Poutine. Une accusation d'une recherche nucléaire de l'Ukraine, une accusation de génocide dans le Donbass et la dénazification qu'il faudrait entreprendre. Vladimir Poutine commence son discours en parlant de ses compatriotes ukrainiens et compatriotes dans cette lignée idéologique, ça veut dire qu'on appartient à la même famille et que donc on vient défendre ses compatriotes. Je crois que beaucoup d'Ukrainiens ont encore en tête la manière dont les Soviétiques, pendant la grande famine de 1931-1933, ont laissé des millions de morts compatriotes ukrainiens mourir. Voilà.
Le grand face-à-face continue.
Le grand face-à-face, le duel.
Il a essayé de se servir d'un éventuel succès diplomatique pour entrer en campagne. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de cet échec, il repousse cette entrée en campagne.
L'inconvénient qu'il a, cet homme, c'est qu'il n'est pas crédible. Tout simplement pour avoir une fois dit « nous allons défendre l'intégrité physique de l'Ukraine ». Les Russes savent parfaitement que les Français sont hors d'état de faire ce travail. Et en toute hypothèse, il est parmi les figures avancées de l'OTAN. Quelles que soient ses intentions, il s'est placé au fur et à mesure dans une position qui a abaissé sa crédibilité.
Marine Le Pen puis Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait donc à propos d'Emmanuel Macron et de son action, de son activité diplomatique pour essayer d'éviter la guerre en Ukraine. La guerre est déclarée et elle s'invite dans la campagne présidentielle. Natacha, on a pris deux paroles d'opposants d'Emmanuel Macron. Les opposants sont faits pour s'opposer. Est-ce que c'est malgré tout quelque chose qui vous surprend dans une période de tension comme celle-ci ?
Alors, ce n'est absolument pas surprenant, mais il faut distinguer les différentes positions. D'abord, l'action d'Emmanuel Macron, qui, de fait, a été parfois contradictoire. En effet, Jean-Luc Mélenchon le rappelait à l'instant dans l'extrait qu'on a passé, Emmanuel Macron avait déclaré de façon tout à fait absurde que l'Europe, la France, étaient prêts à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est une folie. Pour une raison simple, c'est que, de fait, il n'en a jamais été question. Je rappelais à l'instant que même les États-Unis ont expliqué qu'ils n'engageraient pas un soldat pour l'Ukraine. Et tout le monde le sait très bien. Donc cette parole-là était malheureuse. Ensuite, Emmanuel Macron, en allant à Moscou, a tenté une médiation qui, pour le coup, était légitime. Il l'a fait. Alors, l'a-t-il fait aussi pour des raisons de politique intérieure? C'est évidemment tout à fait possible et sans doute probable. Ce n'est pas le problème. Je pense qu'il l'a fait aussi parce qu'il était absolument nécessaire que les Européens soient présents dans des débats qui concernent leur sécurité et qu'il y avait une médiation nécessaire à mener. D'autant qu'il faut remarquer qu'Emmanuel Macron, à cette occasion-là, ne s'est pas complètement aligné sur les États-Unis et sur l'OTAN. C'est à noter parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui rêvent en fait de cet alignement et beaucoup de commentaires qui parlent en permanence des Occidentaux comme si la France et l'Europe avaient les mêmes intérêts que les États-Unis. Or, je pense que ce n'est pas le cas, surtout pas, et qu'en plus, il y a des divisions au sein des Européens. Après, on a les positions comme celle d'Éric Zemmour, qui consiste à dire, en gros, Poutine a raison. Ça, passons sur ce genre de position.
Pourquoi
Marine
passons?
Le Pen, parce que c'est absurde. Parce que c'est absurde. Les positions en noir et blanc sont effarantes, et en l'occurrence, Vladimir Poutine est l'agresseur. Quoi qu'on pense et quelques nuances qu'on puisse apporter sur l'action des États-Unis, et je pense que nous l'avons fait il y a quelques minutes. Je vais vous dire, je pense que la position la plus intéressante que j'ai lue pour ma part est celle de Jean-Luc Mélenchon, justement, qui a expliqué que, évidemment, Poutine était l'agresseur, que c'était que son action était condamnable et qu'il fallait s'y opposer, et que, en fait, elle pouvait être lue comme partant du principe que les États-Unis allaient annexer à un moment donné, enfin, allaient faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN.
Non, il a employé le mot annexion. Il a plusieurs fois dit que c'était une annexion de l'Ukraine dans l'OTAN qui se préparait.
Non, mais ça, c'est ce que dit Vladimir
Mélenchon.
Poutine. Mais Jean-Luc Mélenchon a une position plus subtile que ça.
Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais ce qu'il explique, c'est que en géopolitique, seuls les faits compte. Or, de fait, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Et de fait, c'est donc Vladimir Poutine qui se rend coupable d'une agression contre l'Ukraine, alors même qu'il n'y avait pas de justification qui puisse tenir.
Oui.
Donc je pense que cette position est plutôt raisonnable et elle me semble plus subtile, en tout cas, que celle qui consiste à considérer qu'il y aurait à basculer d'un camp face à un autre, ce qui me semble très dangereux en l'occurrence.
Gilles Finkelstein.
Oui, d'abord une leçon globale. On peut avoir le sentiment que c'est une prolongation de la non-campagne, que une semaine de plus, Emmanuel Macron ne sera pas candidat, que encore pendant des jours, peut-être des semaines, les Français auront la tête ailleurs. Je pense que c'est une erreur de penser ça, qu'en fait, ce à quoi nous assistons, c'est à une mutation des campagnes. C'est-à-dire que hier, c'était la campagne qui faisait l'événement. Les positions des candidats nourrissaient la discussion publique et forgeaient les opinions des Français. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'événement qui fait la campagne, c'est-à-dire le surgissement de l'imprévu qui crée la conversation et à partir des positions des candidats que se forgent les opinions. On a vu ça en Allemagne récemment avec les inondations, on l'a vu d'une certaine manière avec le Covid, on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine et quand vous dites, Ali, les opposants sont faits pour s'opposer, les Français regardent exactement ça et ils ne considèrent pas nécessairement qu'un opposant est fait pour s'opposer. C'est aussi comme ça que va se construire la campagne. Après, leçon plus spécifique. Je crois qu'Emmanuel Macron, les Français, il n'y a pas encore d'enquête là-dessus, mais mon intuition est que majoritairement, les Français lui feront crédit d'avoir essayé et d'avoir essayé jusqu'au bout en mesurant les difficultés de la tâche. Après, Éric Zemmour s'est largement aligné sur les positions de Vladimir Poutine, notamment sur le fond, et en allant jusqu'au ridicule. Il faut quand même lire ce que raconte Éric Zemmour. Je ferai signer un traité où l'Ukraine et l'OTAN doivent s'engager à ce que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN. Éric Zemmour dit « Je ferai signer un traité à l'OTAN et à l'Ukraine ». Bon, d'accord, on peut ne pas s'y attarder, mais je crois qu'il faut quand même le noter. Quant à Jean-Luc Mélenchon, alors qui était sur une position effectivement plus nuancé, qui a condamné les positions et les décisions de Vladimir Poutine. Malgré tout, je crois que c'est parler d'annexion de l'OTAN lorsque un pays choisit d'adhérer à un traité de défense commune. Je crois que ça, il y a une faute de vocabulaire, et connaissant la manière dont Jean-Luc Mélenchon utilise la langue, je crois que c'est une vraie faute. Et proposer une conférence des frontières, qui est le débouché qu'aujourd'hui il propose, dans ce moment-là, les frontières, elles doivent pas être négociées, elles doivent être reconnues.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Il y a une interrogation démocratique, je suis sûre qu'elle heurte des élus dans ce pays, et voilà, j'attends de voir. Ceci étant, je confirme effectivement qu'il y a quand même un sujet entre un tel nombre de promesses de parrainage et si peu de réalisation de parrainage.
C'était la voix de Christiane Taubira qui donc s'inquiétait de sa course au parrainage, course difficile, course laborieuse, et c'est une question qui revient peut-être régulièrement, mais particulièrement dans cette campagne présidentielle. Gilles, est-ce que c'est une question de système? Est-ce que c'est le bon moment pour en parler? Après tout, on n'évoque jamais ce sujet à part quand on est tout près de l'échéance.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Cette question, elle a été évoquée, et elle a été évoquée à plusieurs reprises durant le quinquennat, avec des propositions de loi. D'ailleurs, une très bonne proposition de loi de Jean-Luc Mélenchon. Je critiquais ses positions sur l'Ukraine à l'instant. Très bonne proposition de loi. Une proposition sénatoriale socialiste il n'y a pas si longtemps, et auquel le gouvernement s'est opposé. Donc, évidemment, c'est le moment d'en parler, puisqu'on s'approche du moment où, candidature ou pas, il y aura. Il est possible que ces questions, en réalité, ne se posent pas réellement, et que cette fois-ci, comme les fois précédentes, eh bien, les principaux candidats aient leur parrainage.
Il y a une sorte de vrai faux suspense.
Peut-être. Mais il est possible aussi qu'il les ait parce que François Bayrou, parce que le gouvernement leur ait accordé ou ait fait pression pour qu'il y ait un parrainage. Et donc ce système-là n'est pas satisfaisant. Et puis il n'est pas impossible qu'un certain nombre de candidats importants n'aient pas leur parrainage. Donc je crois que c'est une question qu'il faut aborder. Il y a évidemment une tentation qui est de récuser le problème avec une approche qui est une approche très très juridique, en disant il y a une loi, il y a des procédures, et ceux qui ne les ont pas sont responsables de ne pas les avoir. S'il y avait eu plus de travail militant, Nathalie Arthaud a ses signatures. S'il y avait eu plus de travail militant, s'il y avait eu moins de division, parce que sur chaque espace politique, quand il y a 2-3 candidats, eh bien évidemment, c'est plus difficile de les avoir. Donc, il y a une tentation de répondre comme cela. Malgré tout, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que, alors je vais aller à contre-courant, je le sais. Si Christiane Taubira n'a pas ses parrainages, je comprends que ce soit une déception pour ceux qui le soutiennent, mais ce n'est pas un problème pour la démocratie. Il y a d'autres candidats sur cet espace politique. Si Philippe Poutou ou Anas Kazib n'ont pas leur parrainage, on n'est pas obligé en France d'avoir 3 candidats trotskistes à une élection présidentielle. En revanche, si et Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas candidats à cette élection présidentielle, non seulement c'est un problème pour la démocratie au moment où une majorité de Français considèrent que la démocratie ne fonctionne pas, que leurs idées ne sont pas représentées, mais c'est un risque politique pour la légitimité même du président qui doit être élu.
Natacha.
Oui, je partage totalement cette analyse. L'appel de Jean Castex, mardi 22 février, montre qu'il y a une véritable inquiétude, et en effet cette inquiétude ne peut surgir qu'au moment où on approche de l'échéance et où on constate qu'il y a des candidats qui sont importants, qui n'ont pas leur signature. Après, il y a deux attitudes face à cela. Il y a Anne Hidalgo qui trouve que c'est très malsain de voir le gouvernement intervenir et qui considère que c'est très bien comme ça, elle-même s'étant auto-parrainée. Et puis, il y a l'attitude de Jean Lassalle qui a ses 500 signatures, que ça surprenne ou non, et qui a décidé d'utiliser son propre parrainage pour parrainer Philippe Poutou. C'est deux conceptions de la politique. Mais au-delà de cela, le problème est en effet récurrent, c'est un problème démocratique majeur. Il est lié à différentes modifications de la règle de départ, puisque rappelons qu'au départ, quand le général de Gaulle choisit l'élection présidentielle au suffrage universel, Il y a un débat en 62, donc, au Conseil des ministres sur les règles qu'il va falloir mettre en place. Et diverses voix s'élèvent pour dire il faut 5000 parrainages, il faut 1000 parrainages. Et De Gaulle répond, mais enfin, vous voulez rétablir en gros des grands électeurs, quoi.
Oui.
Et donc, il dit, ce sera 100 parrainages. Pourquoi avez-vous peur du peuple français? Non, il n'y aura pas de candidat folklorique. Les Français sont raisonnables. Et de fait, on a petit à petit durci ces lois, on est passé de 100 à 500, et là surtout, ce qui change les choses, c'est la levée de l'anonymat. Parce qu'on sait très bien que le système des intercommunalités met une pression sur les maires pour obtenir des subventions, des choses comme ça. Donc de fait, il y a un sujet qui doit être réglé, ce système n'est pas bon, et ce n'est pas parce que, in fine, à chaque fois, les candidats ont leur parrainage, qu'il n'y aura pas un accident à un moment, et surtout, passer autant de temps à quêter les parrainages plutôt que de parler des sujets de fond me semble absurde. Alors, il y aurait différentes possibilités, hein. Mêler des parrainages d'élus et de citoyens, ou passer à des parrainages de citoyens, revenir à l'anonymat, rendre possible, enfin dire, faire en sorte que les élus puissent parrainer deux candidats, ce qui ôterait l'idée que ce parrainage est un soutien. Enfin, il y a différentes possibilités, il suffit de s'y atteler.
Gilles Finkelstein, et on passe au débat.
Oui, alors, une nuance et une divergence. La nuance, c'est que un filtre et un filtre serré me semble indispensable lorsqu'il y a une élection du président au suffrage universel direct. Ce n'est pas rendre service à la démocratie que d'avoir un système dans lequel vous avez 15, 20 candidats et dans lequel la clarté du débat se perd. Là où il y a une divergence, c'est que je pense que le problème d'aujourd'hui ne tient aucunement à la levée de l'anonymat. Il n'y avait pas d'anonymat avant 2015. La majeure part, pour chaque candidat, et donc pour Marine Le Pen ou pour Jean-Marie Le Pen qui dépassait à peine les 500 parrainages étaient rendus publics. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une forme de dépolitisation des maires et d'intolérance plus grande des citoyens. Et que donc le coût pour un maire de signer est de plus en plus fort et que les maires signent de moins en moins. Dès lors, je crois que là, Natacha a raison, il faut réfléchir à d'autres solutions, peut-être à un mix de parrainage de maires, peut-être en nombre moins important, et d'un parrainage important d'un nombre de citoyens. Mais cette question-là, elle devra être remise sur le métier dès lors qu'on élit le président au suffrage universel direct.
À suivre dans le grand face-à-face de France Inter, le débat avec Sylvie Brunel.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Le débat, quelle agriculture pour demain? Le salon de l'agriculture ouvre ses portes et c'est l'occasion de réfléchir à un sujet très important, les mutations profondes de ce secteur, le secteur agricole. Beaucoup se demandent comment verdir l'agriculture, la rendre plus respectueuse de l'environnement, en d'autres termes, tout en garantissant la souveraineté alimentaire. C'est comme s'il y avait plusieurs modèles qui s'opposaient. Celui qui veut produire de la richesse, toujours plus de richesse, celui qui essaye de penser la transition écologique et de s'engager dans cette voie, et ceux qui pensent d'abord et avant toute chose à un modèle qui permette aux agriculteurs de travailler et de vivre dignement. Comment les réconcilier? Est-ce qu'on peut d'ailleurs en faire la synthèse de ces différentes questions? C'est en tout cas apparemment très compliqué. On va en débattre avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour Ali.
Et bienvenue, vous êtes géographe, économiste, ancienne présidente d'Action contre la faim et professeure à la Sorbonne Université. Vous avez publié un livre qui avait fait date, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, HarperCollins. C'était il y a un an. Cette problématique, elle est présente et présente de manière assez curieuse dans la campagne présidentielle. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle bien, à défaut d'en parler beaucoup? Il y a évidemment la recherche, chaque candidat a des propositions pour l'agriculture, ou plutôt pour les agriculteurs et les voix des agriculteurs, mais est-ce que vous trouvez qu'on en parle convenablement?
D'abord, on va en parler de plus en plus parce que l'invasion de l'Ukraine par Poutine va tendre profondément les marchés des céréales, les prix mondiaux du blé, du maïs. Nous avons deux grands greniers à céréales que sont l'Ukraine et la Russie. Depuis 2014, la Russie est devenue le premier exportateur de blé mondial. Or, vous le savez, il y a très peu de pays qui exportent et beaucoup de pays qui importent. 150 pays importent leur nourriture. Le prix de la nourriture conditionne la paix sociale, par exemple au Maghreb, par exemple au Proche-Orient. Et il va y avoir des répercussions qui vont nous concerner, nous, directement, parce que la France a encore la chance de faire partie du tout petit top 10 des exportateurs de céréales.
Des top 10, mais c'est une question donc géopolitique dont on ne finit pas de mesurer les répercussions. Cette problématique de l'agriculture lorsqu'elle s'invite dans la campagne présidentielle, pour vous, il faut d'abord penser à l'indépendance alimentaire, à la souveraineté alimentaire, à quelque chose comme une forme de patriotisme alimentaire, pour reprendre des mots de candidats.
Alors, il faut associer les modèles. Nous avons en France la chance d'avoir une agriculture qui reste familiale, une agriculture qui est extrêmement diversifiée, qui fait d'ailleurs de notre pays un des modèles alimentaires au monde, avec une agriculture qui est considérée comme durable. Mais nous avons, au moment de la campagne électorale, ce qu'on voit, c'est des candidats qui défendent une agriculture qu'ils appellent paysanne et qu'ils opposent à une agriculture qui serait productiviste ou industrielle. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Ça, c'est une caricature ?
C'est une caricature d'opposer ces deux types de modèles. D'abord parce que aujourd'hui, en France, nous avons d'abord et avant tout des paysans. Ils se revendiquent comme tels. C'est une profession qui a connu un véritable sinistre en un siècle, qui a baissé de 5 millions de personnes. Et d'ailleurs, ils ont très bien travaillé puisque finalement, ils ont réussi à nous nourrir en toute sécurité. Et en même temps, cette profession, elle est confrontée à une révolution. C'est que la moitié des agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 prochaines années, que 5 millions d'hectares de terre vont changer de main, qu'on a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Et la question qui se pose, c'est quelle agriculture pour la France demain et comment on va faire une place à ces gens qui occupent nos territoires et qui ont souvent le sentiment qu'ils ne sont ni reconnus, ni respectés, ni rémunérés.
Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony.
Quelle agriculture ? Je voudrais revenir sur le retour de la notion de souveraineté nationale, souveraineté européenne que l'on voit depuis plusieurs années et de manière accélérée depuis la crise du Covid dans de très nombreux domaines, le domaine économique, le domaine financier, le numérique, la santé, le militaire évidemment et l'alimentaire, la souveraineté alimentaire. Vous avez souligné à quel point la guerre en Ukraine pose des problèmes. Non seulement il y a la question du gaz, mais derrière il y a aussi la question notamment du blé. Est-ce que pour vous, cet objectif de la souveraineté alimentaire a un sens en Europe et en France? Et s'il a un sens, quelles conséquences cela a-t-il sur l'évolution de notre agriculture?
Sylvie Brunel.
Eh bien, il y a 60 ans, le général de Gaulle, en 1962, définissait les lois d'orientation agricole et il disait « Il faut que nous, la France, nous cessions de dépendre du blé des autres pays, du blé américain et même du blé algérien, parce qu'on oublie que nous avons importé notre blé d'Algérie. » En 1992, on avait tellement bien travaillé, je passe de 30 ans en 30 ans, hein. En 1992, on avait tellement bien travaillé qu'on se dit « Mais maintenant, il faut arrêter de surproduire, il faut passer au verdissement. » Et là, on est en 2022, c'est-à-dire 30 ans après, et la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir un pôle entre produire ou protéger, ou est-ce qu'on peut concilier les deux,
ce que j'appelle... Expliquez justement la différence entre produire et protéger.
Alors, pour moi, il n'y a pas de différence, si ce n'est que avant, nous avions une préoccupation qui était, si on peut dire, d'avoir le maximum de rendement sur les territoires, parce que nous souffrions de la faim, parce que nous avons connu les tickets de rationnement du pain. Et d'ailleurs, on l'a bien vu lors du premier confinement, les gens se sont précipités dans les magasins pour faire des provisions. Et heureusement d'ailleurs que l'agriculture française a tenu, parce que ça n'a pas été le cas dans une grande partie du monde. Vous savez qu'en novembre 2020, le Programme alimentaire mondial a eu le prix Nobel de la paix, c'est la plus grande organisation d'aide humanitaire au monde. Il y a eu 1 million de pauvres qui ont basculé dans l'insécurité alimentaire en France. On considère aujourd'hui qu'un Français sur 5 ne peut pas faire 3 repas corrects par jour. Jamais les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Action contre la faim, jamais les organisations humanitaires n'ont eu autant de travail. Donc aujourd'hui, comment concilier le fait de continuer à produire parce que 3 hectares de céréales sur 5 en France nourrissent des pays qui sont à nos portes et qui sont structurellement déficitaires, et pas seulement le Maghreb, mais l'Espagne, mais les Pays-Bas, mais la Belgique, ce qui est quand même fou de penser que nous exportons des céréales dans ces pays. Et comment le faire en entendant les attentes de nos concitoyens et les attentes de l'Europe qui disent aujourd'hui, on ne veut plus de pollution, on ne veut plus de ce qu'on continue à appeler à tort des pesticides.
Il faut passer au bio.
Alors qu'on vient de connaître en plus la pandémie et l'insécurité alimentaire. Donc, alors, moi j'ai des réponses, bien sûr.
Mais on va en parler justement. Bien sûr. Natacha Polony.
Oui, il me semble que la question de la souveraineté alimentaire, en fait, c'est la question de savoir si un pays comme la France, qui est historiquement un pays agricole, dont toute la puissance vient de l'agriculture, va devenir dépendant. Nous allons, en 2023, devenir importateurs de produits agricoles, ce qui est une absurdité totale. Nous importerons plus que nous n'exporterons. Et la question est de savoir pourquoi. Est-ce que il s'agit seulement de, en gros, d'un verdissement qui ferait que nous produirions moins? Il ne me semble pas. Je pense que le problème, quand on voit les fermetures d'exploitations comme le maraîchage, les fruitiers, etc., on s'aperçoit que c'est surtout une question de concurrence de la part de pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales et les mêmes normes sociales. Et c'est lié, en fait, donc, à la question du libre-échange et à la question que la loi Egalim espérait régler, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où on a une grande distribution qui dit à des paysans « vous produisez moins cher, sinon je me fournis ailleurs », eh bien les paysans sont perdants, c'est quand même la seule profession qui ne fixe pas ses prix de vente et qui les subit. N'y a-t-il pas là une aberration? Et dans ces cas-là, c'est bien le système, et notamment le système de la grande distribution qu'il faut revoir, ce qu'essaye de faire d'ailleurs la loi Egalim 2, qui revient sur le fait que la loi Egalim 1 a été contournée par la grande distribution.
Sylvie Brunel.
Oui, Natacha Polony a totalement raison. La grande question aujourd'hui des agriculteurs, c'est comment être rémunéré dignement, justement, pour le travail qu'ils fournissent, et qui est un travail de plus en plus compliqué, parce qu'on alourdit les normes sociales et les normes environnementales. Aujourd'hui, pour être un bon agriculteur, il faut être bon en tout. Il faut piloter le climat, il faut piloter les sols, il faut piloter l'eau, il faut ne pas subir les marchés.
Ça, c'est regrettable.
Ah bah mais bien sûr, c'est regrettable, parce qu'en France, nous avons quatre centrales d'achat qui font la pluie et le beau temps. 90% de l'alimentation continue à passer par les grandes surfaces. Et il y a un hiatus entre le militant ou le citoyen qui dit « je veux du bio, du local, du circuit court ouais. » et puis le consommateur qui, lui, va regarder d'abord et avant tout le prix. Ce dont joue les hypermarchés, puisque on l'a bien vu, premier confinement, les magasins paysans, on est en plus, on est limité à un kilomètre, les magasins paysans ont vraiment une belle reconnaissance. Troisième confinement, eh bien depuis, c'est la guerre du discount alimentaire, avec l'arrivée de des mires russes, alors c'est, ou des normaux danois, normales danois, c'est-à-dire la guerre du prix. Et pour l'agriculteur, mais il est pris en étau là-dedans, avec, dans un contexte où en plus le prix de l'énergie et de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, les produits de traitement, eh bien flambe. Donc aujourd'hui, le modèle agricole français, il est à la tournée vraiment, à la croisée des chemins, et il se demande comment concilier ces attentes contradictoires.
Gilles Finkelstein.
Ali Badou disait tout à l'heure que la place de l'agriculture était modeste dans cette campagne. Alors il y aura évidemment le moment du salon de l'agriculture où on va en parler, mais pour le reste, je crois que c'est une vérité. En revanche, ce qui est frappant, c'est que si on parle moins de la production, donc de l'agriculture, on parle beaucoup de la consommation, c'est-à-dire de l'alimentation. Et les questions d'alimentation deviennent de plus en plus des questions qui sont très présentes et qui sont des questions de plus en plus politiques. Est-ce que pour vous, c'est une bonne manière d'entrer dans le sujet?
Sylvie Brunel.
Alors c'est Jean-Luc Mélenchon, dont on a beaucoup parlé lors de cette émission, qui dit qu'il veut faire un ministère de l'alimentation et non pas un ministère de l'agriculture, avec un prix plancher pour les agriculteurs et un prix plafond pour les consommateurs, c'est-à-dire vraiment un interventionnisme considérable. La question de l'alimentation, elle revient au premier plan. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu avec les gilets jaunes, les gens sont confrontés à la difficulté de boucler les fins de mois. Ils sont confrontés aussi, attention, à une segmentation alimentaire de plus en plus forte. On sait bien que les repas de famille sont devenus entre ceux qui sont véganes, ceux qui sont contre le gluten, ceux qui sont contre le lactose, tout le monde a aujourd'hui, enfin nous sommes des enfants gâtés, les agriculteurs ont tellement bien travaillé qu'aujourd'hui on se dit, non pas qu'est-ce qu'on va manger, mais qu'est-ce qu'on va ne pas manger. C'est quand même le comble.
Mais Sylvie Brunel, il y a ceux qui regardent le prix et évidemment ceux qui regardent aussi la qualité, ceux qui exigent une montée en gamme. On a l'impression que ces deux mouvements sont complètement contradictoires.
Oui, mais alors justement, c'est la grave erreur que nous commettons en France, c'est que nous continuons à opposer une agriculture dite conventionnelle à une agriculture biologique. Or, la France produit la nourriture la meilleure et la plus sûre du monde. Et ce qu'on continue à appeler le conventionnel, ben, c'est plus du conventionnel. D'abord parce que ça ne cesse d'évoluer. Les critères de verdissement sont de plus en plus forts.
Oui, mais ce qu'on importe...
Ah oui, alors tout à fait.
Je ne sais pas si on peut l'appeler conventionnel, mais on importe des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que les normes françaises ou européennes.
Que ça soit les poulets, les pommes, les porcs, on importe des choses dont nous ne voudrions pas en France, mais qu'on continue à vendre au nom du prix. Et ça, c'est ce que le consommateur doit comprendre avant tout, et c'est un discours qui paraît aujourd'hui un discours d'extrême droite, de dire qu'il faudrait qu'il y ait une préférence nationale. Mais c'est quand même ça la vérité. C'est que notre repas gastronomique français, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, que chaque année, il y a 160 millions de personnes qui quittent la pauvreté pour rentrer dans les classes moyennes. Et qu'est-ce qu'elles veulent ces personnes? Elles veulent manger français. Parce qu'elles ont conscience...
Mais pas n'importe quelle alimentation, parce qu'en l'occurrence, on a vu les conditions d'élevage, il suffit de regarder des vidéos de L214 pour se dire, franchement, j'ai pas vraiment envie de manger français quand j'ai vu les conditions d'élevage de poulet, de porc.
Et est-ce qu'elles veulent pas bien manger plutôt que manger français?
Elles veulent bien manger, mais elles veulent d'abord que ça soit accessible financièrement. Je vous donne un exemple sur la boîte 2, des 6 œufs. Les 6 œufs en ce qu'on appelle en batterie, hein, je vais utiliser le terme choquant volontairement, 0,72 euros. Les 6 œufs label rouge, 2,80 euros, voire 3 euros.
Et puis, label rouge, ça veut dire que le poulet a une chance de voir la lueur du jour une fois dans sa vie.
En ce moment, non, parce qu'en plus, avec la grippe aviaire, il est de nouveau confiné. Donc, vous voyez la contradiction, c'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui des œufs label rouge avec des agriculteurs, des aviculteurs qui se donnent un mal fou, mais qui sont quand même obligés de le faire, parce qu'il faut jamais oublier que le consommateur, sa santé passe avant tout. Et dès qu'il y a un problème éventuel, on l'a vu avec Lactalis, vous savez, avec les tours de refroidissement et les problèmes des bébés il y a quelques années, les contaminations alimentaires, ça tuait 4000 personnes en France en 1960. Aujourd'hui, ça en tue environ 200, avec les salmonelloses, notamment les œufs, et puis les problèmes de listeria chez les personnes âgées, par exemple. Et c'est considéré comme totalement inacceptable. Donc, vous voyez l'ambiguïté. Nous sommes ambigus. Nous avons des exigences, mais nous voulons que ça soit sûr et que ça soit pas cher.
Natacha Polony.
Alors, il y a un élément qu'on aborde très rarement et qui pourtant me semble très important. Nous, on y a consacré cette semaine un gros dossier dans Marianne qu'on a titré « Main basse sur les terres agricoles ». C'est-à-dire qu'en gros, la question de la terre n'est jamais abordée. On parle climat, on parle qualité de l'élevage, souffrance animale, etc. Mais en 40 ans, la France a perdu 2,5 millions d'hectares cultivables, 8% de sa surface agricole. C'est-à-dire que, en gros, on artificialise jusqu'à 82 millions de mètres carrés par an, c'est-à-dire en recouvrant de béton, etc. Et ce sont en général les terres les plus fertiles, puisque ce sont celles qui sont autour des villes, et les villes se sont installées là où il y avait de la fertilité. Deuxième élément, en plus de cette bétonisation, on vend la terre. Alors, on avait beaucoup parlé de l'affaire de la Chine, de ces deux entreprises chinoises qui avaient racheté 1700 hectares en 2016 dans l'Indre. C'est en train de se multiplier, c'est-à-dire que les organismes qui sont censés contrôler ça ne peuvent plus faire face au contournement des lois. C'est-à-dire qu'en fait, la terre va devenir un enjeu dans les 20-30 prochaines années. Pour l'ensemble de la planète, les terres agricoles vont manquer sur la planète et des puissances étrangères, des milliardaires, etc., se l'approprient. La question est de savoir si véritablement il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. Or, je suis frappée de voir que justement ce sujet-là devrait être essentiel et il est totalement absent.
Sylvie Brunel.
Alors, vous avez raison. Le problème de la perte de la superficie agricole utile est colossal. Nous avions 35 millions d'hectares de superficie agricole utile en 1960. Nous en avons 26,7 millions aujourd'hui. Et en même temps, la population a été multipliée par 1,5. Et puis, il y a le problème de tous ces gens qui vont partir en retraite, donc ce qu'on appelle la transmission. Les nouveaux agriculteurs, les jeunes agriculteurs, ce sont des gens de plus en plus diplômés, ils ont des attentes considérables, ils veulent vraiment, ce sont ce qu'on pourrait appeler des managers du climat, des managers de la biodiversité, une biodiversité d'autant plus importante qu'elle est nourricière, et qui se retrouvent confrontés à des difficultés d'installation. Alors il y a un organisme en France qui a été créé dans les années 60, qui sont les SAFER, Société d'aménagement foncier d'établissement rural, qui aujourd'hui essaie de faire des dispositifs de portage et de stockage du foncier.
Mais ils sont contournés.
Alors voilà, pour permettre justement à ces nouvelles installations de voir le jour, mais c'est compliqué, et d'autant qu'il y a aussi des non-autorisations d'installation.
C'est-à-dire
qu'il y a des terres où on considère qu'elles ne sont pas agricoles, par exemple en périurbain. Et puis il y a autre chose, il y a le problème des zones de non-traitement. Vous savez que selon le périmètre des zones de non-traitement, ben on perd de plus en plus de terres cultivables. Et puis il y a aussi le problème des terres protégées, et parfois protégées contre les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on les met sous cloche, par exemple les riziculteurs de Camargue, qui se retrouvent confrontés à la difficulté de maintenir une production de riz qui pourtant dessale les terres, permet les taureaux et les chevaux, et qui aujourd'hui, ben on leur dit non. Et alors voyez, ce sont des questions qui sont à la fois juridiques, mais des questions aussi de société. Et pour moi, l'agriculteur devrait être considéré, alors qu'il est si minoritaire aujourd'hui, comme d'intérêt général. Et cet agriculteur, il faut faire attention qu'on ne revienne pas à une fabrique de pauvres. Parce qu'aujourd'hui, on préconise des petits modèles. L'agriculture paysanne, l'agriculture vivrière, la permaculture, tout ça est très respectable. Le problème, c'est quelle rémunération? Est-ce qu'on peut juste dire à l'agriculteur, tu vas produire peu et cher? Et puis il y aura des gens qui paieront, alors qu'on sait bien qu'en France, eh bien, il y a 10 millions de pauvres.
Mais il y a malgré tout un modèle productiviste qui continue à exister, on ne peut pas le nier.
Alors moi je ne suis pas d'accord avec le terme productiviste. On a un modèle productif. Pourquoi productif ?
Je l'assume parce que très sincèrement, quand on voit certaines images et qu'on voit certaines exploitations agricoles, on peut parler de productivisme, quasiment d'industrialisation du métier de paysan.
Vous pouvez dire ça sur justement l'Ukraine ou l'Australie ou le Middle West, où vous avez des exploitations de plusieurs milliers d'hectares. Nous, en France, la taille de l'exploitation moyenne, c'est 69 hectares. Le troupeau de vaches, c'est 50 vaches. Donc, ça veut dire qu'on a encore une agriculture familiale de proximité, de terroir, qui joue sur le patrimoine, qui joue sur les paysages. Et ouais, quand ces agriculteurs, il faut qu'ils trouvent un revenu, bah, soit ils s'en tirent par les volumes, soit ils s'en tirent par le prix.
Mais Natacha n'a pas l'air complètement d'accord.
Oui, mais bien sûr, oui, je comprends tout à fait ces deux visions qui ne s'opposent pas, parce qu'on a une marqueterie. Pardon, Natacha, je vous laisse parler, excusez-moi.
Natacha.
Juste un mot. On est passé quand même, en 30 ans, de 24 hectares en moyenne l'exploitation à 69 hectares, et en fait, ferme sur 5 fait 136 hectares. C'est 40% du territoire agricole. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers un modèle productiviste. Et vous avez raison, la question c'est comment on vit sur cette surface. Mais dans votre livre, vous avez l'air en fait de balayer un peu les modèles de justement d'agroécologie en disant que ça peut être très folklorique, que ce serait des néo-ruraux, des choses comme ça. L'agroécologie est une des façons de penser la manière de vivre réellement. C'est justement le lien entre des techniques qui sont pas des techniques anciennes, mais des techniques modernes de compréhension des sols, et la façon dont on va en vivre économiquement. C'était tout l'objet de la loi d'agroécologie de Stéphane Le Foll quand il était ministre de l'Agriculture.
Modèle
productiviste, c'est que c'est un modèle qui fait vivre contrairement au modèle productiviste.
Alors non, malheureusement, non, parce qu'il faut soit énormément de main-d'œuvre et il faut la rémunérer. Et vous savez que les charges sociales sont très élevées en France, par exemple, comparées à l'Allemagne. Il faut des machines si on veut remplacer la pénibilité du travail agricole, des rotatifs, des RC-tries, des drones, de l'agriculture connectée. Ça vaut de l'argent. Et le problème, c'est les volumes et la valorisation.
Et il y a aussi les travailleurs saisonniers qui, pour le coup, sont payés au lance-pierre et qui sont logés dans des conditions abominables.
Et la valorisation économique de l'agroécologie, c'est-à-dire comment vous faites pour valoriser une infinité de plantes sur la même parcelle. Il faut des lecteurs optiques, il faut des robots trieurs, tout ça, ça demande des moyens. Comment on fait? Alors les coopératives, l'union des agriculteurs face à une grande distribution très organisée, mais surtout du respect. Du respect parce qu'on ne vit pas sur 20 hectares, sauf si on produit sur des niches.
Gilles.
Oui, je voudrais qu'on porte un instant notre regard au-delà de notre pays et interroger l'ancienne présidente d'Action contre la faim. Beaucoup d'incertitudes, on l'a vu, sur l'évolution du monde. Il y a au moins deux certitudes, c'est le climat et la démographie. Et la démographie, on sait que la population mondiale va augmenter, qu'il va falloir la nourrir et qu'on a déjà plusieurs centaines de millions, peut-être un milliard de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. Et donc, les questions sont très simples dans leur formulation en tout cas. Est-ce qu'il est possible de nourrir 9, 10 milliards d'habitants sur cette planète ? Avec quel régime alimentaire ? Et est-ce que la France doit produire plus pour exporter plus ?
Alors, Sylvie Brunel.
Nous avons effectivement, selon la FAO, besoin de produire 3,4 milliards de tonnes de céréales en 2050. Nous sommes à 2,7 milliards de tonnes de céréales aujourd'hui pour nourrir le monde. Certains pensent que du coup, il faut végétaliser l'alimentation. C'est une erreur. C'est une erreur pourquoi ? Parce que l'animal valorise des terres difficiles, moyenne montagne, steppe, désert. Que l'animal, la prairie, c'est une infrastructure agroécologique de premier choix. Vous parliez tout à l'heure de 2015 de Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, il a aussi initié ce qu'on appelle l'initiative 4 pour 1000. Quand on augmente de 4 pour 1000 la teneur en carbone des sols, on arrive à compenser le changement climatique. Or, la prairie, c'est une petite Amazonie française et c'est 14 millions d'hectares sur 28 millions d'hectares. Nous avons besoin de nos éleveurs, mais bien sûr, nous avons besoin du bien-être animal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les campagnes, ça carbure de tous les côtés, ça réfléchit pour trouver des modèles qui concilient tout ça, que les paysans sont des acteurs essentiels aujourd'hui des plans climat, de la gestion de l'eau et bien sûr de la vocation nourricière de la France. Allons à leur rencontre, c'est l'objectif du Salon de l'agriculture. Oui. Ils ont énormément à nous apprendre.
Et vive les patates. Sylvie Brunel.
Nous sommes le premier exportateur de pommes de terre au monde, cher Ali.
Exactement. Mais oui.
Et le premier exportateur.
Vive les frites et la purée.
De semences de maïs.
Pardon.
C'est très
alors,
important.
Si on peut juste dire un mot.
Natacha.
Un mot rapidement sur les patates. Nous sommes exportateurs de patates parce que bêtement nous ne les transformons pas et que nous avons de l'appropriation des terres agricoles dans les Hauts-de-France de Belges qui viennent prendre la terre pour produire eux-mêmes les patates pour ensuite les exporter pour les transformer. C'est une absurdité et ça fait partie de l'appropriation des terres. Deuxième point, vous parlez des prairies qui sont du climat.
Gilles est en train de penser à se mettre à la culture de patates.
Juste une chose, c'est très bien les prairies, mais pour ça, il faut justement une agriculture respectueuse de l'environnement et qui ne soit pas productiviste. Vous avez des vaches
alors,
en France
Sylvie
qui
Brunel.
Ne voient jamais un brin d'herbe, qui sont en tabulation toute l'année,
y en
c'est
a
bien
très
le
peu.
Problème.
Il
faut
y en a
les mettre
peu.
À l'herbe.
Alors, il y en a très très peu, les vaches elles sont à l'herbe, mais l'hiver, comme tous les animaux, elles ont froid, il faut les rentrer, les robots de traite, ça permet aussi d'économiser le travail de l'éleveur. Produire du lait, les trois quarts de l'humanité est déficitaire en lait, 4 litres de lait sur 10 franchissent nos frontières pour nourrir des populations malnutries. Bien sûr, pour répondre à Gilles Finkenstein, il faut hisser le revenu du paysan dans les pays du Sud pour qu'il devienne un citoyen et non pas un affamé. Mais le monde n'oppose pas, une agriculture qui serait productiviste, une agriculture qui serait pauvre. Le monde, il oppose des modèles qui nourrissent ceux qui les mettent en œuvre et qui protègent la nature, et d'autres qui aujourd'hui sont prêts à toutes les révolutions et à toutes les migrations parce que leurs écosystèmes sont dégradés et qu'ils ont besoin de notre coopération, mais aussi de notre aide alimentaire.
Mais notre modèle actuel ne nourrit pas les paysans, ils crèvent, ils se pendent. C'est bien le problème. Donc le modèle actuel ne fonctionne pas. Il faut le revoir.
Bien sûr qu'il faut le revoir et c'est pour ça qu'il faut aller à la rencontre de ces agriculteurs pour les aider à devenir des acteurs essentiel de cette transition énergétique, qui produisent déjà 30% de l'énergie en France, de cette transition écologique avec les replantations de haies, avec tous ces systèmes dont vous parlez, Natacha, sans oublier néanmoins que si on ne produit pas, on crève et que sans agriculteurs, un pays meurt.
Vive les paysages de bocage.
Vive tous les paysages, parce qu'aujourd'hui, les grandes cultures, c'est important aussi. Les grandes cultures, c'est très important.
Est-ce qu'il y aurait encore une agriculture française s'il n'y avait pas la PAC?
Alors, la PAC est importante, mais vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup de renationalisation des PAC, on parle des écochèmes, on parle des modèles nationaux. La France, le prochain candidat à l'élection, le prochain président, il ne pourra pas tourner le dos à cette mutation profonde qui est en train de connaître l'agriculture française.
Merci infiniment Sylvie Brunel d'avoir été l'invitée du grand face-à-face de France Inter. Je rappelle ce livre, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, c'est chez HarperCollins. Et on attend donc que Gilles se lance dans l'agriculture et pour aller visiter sa ferme et manger des patates, Gilles. on sera les bienvenus.
Il sera peut-être pas prêt à travailler la terre de ses mains, c'est ça aussi dont il faut
parler. Oui, mais Natacha est prête, elle s'y mettra elle aussi. Merci à tous les deux et je vous retrouve samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. Merci à Marie Mérier qui l'a réalisée, à la technique Laurent Baudouin, et à suivre sur Inter, le journal de 13h.